Les animateurs de cette balado-diffusion n'ont aucun conflit d'intérêt à déclarer en lien avec l'épisode qui suit. Bonne écoute!
Bienvenue au Pharmascope.
Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du Pharmascope. Je m'appelle Nicolas Dugré, je suis pharmacien au CIUS du Nord de l'île de Montréal.
Bonjour tout le monde, je m'appelle Olivier Massé, je suis pharmacien dans le même CIUS.
Salut, je m'appelle Amélie Gravel, je suis médecin de famille au GMF Sacré-Cœur dans le même CIUS.
Comment ça va?
Ça va pas payer vous autres.
Ça va, ça va.
Alors, nouvel épisode aujourd'hui, un classique. Ton deuxième, je me trompe pas, Amé.
Exactement, Nico.
Un fameux épisode questions-réponses. Ces épisodes où on reçoit généralement des bonnes questions et où on fournit généralement...
Ben, on essaie de fournir des bonnes réponses. On essaie.
Mais c'est pas tout le temps facile. C'est pas tout le temps facile. Puis aujourd'hui, n'y fait pas exception. Mais bon, fait qu'on s'excuse d'avance si nos réponses sont décevantes. Là, on fait notre gros possible. Alors, sans plus tarder, question premièrement de Marie-Ève. On sait pas d'où elle vient, Marie-Ève, hein, je crois.
Ben, malheureusement, ce n'était pas précisé dans sa question.
On vous rappelle, là, hein, essayez de... dire d'où vous venez, ça nous intrigue. On a reçu, en passant, là, je vous ai pas dit ça, mais on a reçu un courriel récemment au Pharmascope. C'était pas une question, fait que ça n'a pas fait l'épisode aujourd'hui, mais un courriel de Belgique pour nous aviser que nous serons un élément parmi d'autres d'une thèse portant sur les balados en sciences de la santé. Et mine de rien, c'est la deuxième fois que le Pharmascope fait l'objet d'une thèse sur le sujet en Europe. Hein? On est... international, toutes choses.
Je tiens juste à ajouter que, Nico, tu sembles quasiment plus préférer la localisation géographique des gens qui nous posent des questions que les questions elles-mêmes.
Ben, j'imagine que c'est dans la même veine que le fait que j'aime mieux les noms des études que les études elles-mêmes. Je sais pas. Regarde. Mais bref, alors, qu'est-ce qu'elle voulait savoir, Marie-Ève Oli?
Donc, la question de Marie-Ève va comme suit. J'ai une question pour faire suite aux épisodes sur l'hypothyroïdie.
Aïe, moi, je n'avais que ça, des questions pour faire suite aux épisodes sur l'hypothyroïdie.
Ben, peut-être que nos réponses n'étaient finalement pas si concluantes. Hein? Marie-Ève continue. Je suis une patiente de 71 ans avec hypothyroïdie primaire, déjà sous traitement avec Synthroid. Suite à un bilan de suivi, sa TSH est au-dessus des valeurs de labo à 8,42, mais sa T4 est normale à 13,4. Elle est un peu fatiguée, mais n'a pas d'autres symptômes. Est-ce qu'on ajuste la dose de Synthroid quand la TSH est élevée avec une T4 normale? J'avais comme notion d'utiliser... seulement la TSH. Pour le diagnostic, est-ce que c'est considéré comme une hypothyroïdie subclinique, mais qu'en est-il pour le suivi? Donc, merci pour ta question, Marie-Ève. Il y a plusieurs éléments à adresser dans ta question. Le premier point, peut-être sur le diagnostic d'abord, là, on a des valeurs de TSH et de T4 ici sous traitement de lévothyroxine. Hein? Donc, on peut pas considérer que les labos démontrent une hypothyroïdie subclinique parce que la patiente est déjà sous traitement. Ce qu'il faudrait faire si on veut connaître le diagnostic, c'est retourner à la base aux labos initiaux là, qui ont mené à la première prescription de lévothyroxine. C'est à ce moment-là qu'on aurait pu distinguer l'hypothyroïdie franche ou clinique de l'hypothyroïdie subclinique. Donc ici... difficile à dire, à moins qu'on ait accès aux laboratoires initiaux de la patiente. Premier élément. Sinon, le deuxième élément qui concerne plus les ajustements de lévothyroxine, là, c'est clair dans la littérature que pour l'hypothyroïdie primaire, tous les guides de pratique vont recommander d'utiliser la TSH pour guider les ajustements de dose. On recommande généralement pas d'utiliser la T4 ou encore la T3. Là. Puis tout ça, c'est pas basé sur de la science de très grande qualité parce qu'on s'entend que logiquement, ça ferait un petit peu plus de sens de suivre la T4 étant donné qu'on donne une forme synthétique de T4 et l'hypothyroïdie à la base, on se rappelle que c'est un manque de T4.
Ben c'est ça, l'idée, tu sais, vous réécouterez les épisodes si c'est pas déjà fait pour vous rappeler à quel point toute cette science-là est...
inexistante.
Ouais, un peu, mais tu sais, l'idée quand même à la base, c'est que c'est la T4 puis plus ou moins la T3 qui fait l'effet. La TSH, a priori, n'explique pas aucun des symptômes d'hypothyroïdie, là, fait que ça ferait du sens... selon cette logique-là, de suivre une T4, mais c'est pas ça qui est fait.
Non, puis là, après, il y a plein de raisons qui sont évoquées dans les différentes lignes directrices. On mettra le lien vers une référence, là. Il y a des lignes directrices précisément sur l'utilisation judicieuse par l'ATA des différents bilans de TSH, T3, T4 et quand les utiliser. Mais grosso modo, les intervalles de référence de la T4 semblent encore moins bien établis que pour la TSH. Puis, ce qui est souvent évoqué dans les guides de pratique, c'est que la T4 normale peut varier beaucoup d'un individu à l'autre comparativement à la TSH qui serait plus comparable d'un individu à l'autre, là. Je sais pas si c'est ultra convaincant, mais c'est dans les justifications que j'ai trouvées. Ça semble surtout, comment dire, être un rationnel historique. C'est-à-dire qu'on a toujours ajusté le cytinthroïde, la lévothyroxine avec la TSH, là, mais il semble pas avoir de bonne science sur comment bien ajuster.
Mais ça, on se rappelle, là,
C'est
y en
tout.
a pas. On se rappelle que ces mesures-là varient beaucoup dans le temps, sur la machine, puis tout ça. On se rappelle qu'on sait pas trop qu'est-ce qu'on serait censé viser dans l'un ou l'autre des cas. Puis on se rappelle que la corrélation entre l'un et l'autre n'est pas excellente. Fait que...
Ben voilà.
Puis là, tu sais, normalement, dans une autre condition de santé, on pourrait se dire, ben, peut-être qu'on peut court-circuiter ces enjeux de laboratoire-là, puis y aller plus sur une clinique de patients. Mais là, ici, comme c'est souvent le cas, on parle de quelqu'un qui a un peu de fatigue. Qui n'a pas un peu de fatigue? Ils sont où, ces gens-là? Parce que moi,
Moi, j'ai beaucoup de fatigue. C'est quoi un peu de fatigue?
Ben, vous devriez faire tester votre
Ouais, c'est ça.
TSH.
Fait que c'était quoi ta réponse pour Maria, finalement, Ali?
Ben, tu sais, pour Marie-Ève, la réponse ici, c'est que la patiente, elle a de la fatigue. On s'entend que la fatigue, ça peut être compatible avec l'hypothyroïdie. Je pense que ça mériterait une discussion avec la patiente. Est-ce qu'elle veut essayer une augmentation de sa lévothyroxine pour essayer de voir si ça aide un petit peu sa fatigue, étant donné que sa TSH est légèrement plus augmentée, mais je pense que ça mérite une discussion avec la patiente. Mais c'est sûr que s'il n'y avait pas eu de fatigue dans le portrait décrit ici, ça serait beaucoup plus discutable d'ajuster. Là, avec ce symptôme-là, il me semble qu'on a quand même un argument pour avoir une discussion avec la patiente sur un ajustement potentiel de dose, là.
Puis même si on pousse plus encore là, notre réflexion, on pourrait même considérer chez cette patiente-là, là, on n'a pas toute l'info sur le cas évidemment, mais de, là, je sais que ça va paraître contre-intuitif, mais de cesser la lévothyroxine.
Ouais.
Il y a une étude, je pense, Ali, là, que tu aimes beaucoup, qui est sortie il n'y a vraiment pas longtemps, début
Je
avril dans
l'aurais
le
pas
JAMA.
caractérisé comme ça, là.
Mais étude randomisée quand même, contrôlée, sortie dans le JAMA en avril 2026, qui portait justement sur l'idée de discontinuer la lévothyroxine chez les gens de 60 ans et plus stables sous lévothyroxine avec une TSH en bas de 10. Fait
Ouais.
qu'ici, ça semble correspondre quand même. Bon, il y avait l'idée de prendre une dose d'au plus 150 microgrammes par jour, là, fait que ça, on n'a pas cette information-là dans la question de Marie-Ève, mais... Puis, ce qu'ils ont fait, c'est donc, chez la moitié de ces gens-là, ben, cesser la lévothyroxine ou tenter de cesser la lévothyroxine, puis là, voir ce qui se passait en termes de paramètres biochimiques. Ils ont aussi regardé ce qu'ils appellent la qualité de vie reliée à la thyroïde. Puis, au final, ben, devinez quoi? J'ai un certain nombre de gens, notamment beaucoup les gens qui prenaient pas des grosses, grosses doses, là, fait que surtout les gens qui prenaient 50 microgrammes ou moins, ben, si tu arrêtes la lévothyroxine, puis tu suis les paramètres biochimiques pendant un an, ben, il y a un paquet de ces gens-là pour qui les paramètres biochimiques vont rester, ben, je vais dire normaux, là, mais mettons dans des critères de non-traitement. Fait que pour ajouter une couche supplémentaire, là, hein, non seulement tu pourrais dire peut-être que ça vaut la peine d'augmenter la dose de lévothyroxine chez le patient que j'ai en fonction de la présentation clinique puis des résultats de paramètres biochimiques que je reçois. Puis ultimement, tu pourrais même probablement te questionner sur ce que je pourrais aussi essayer de l'enlever. Ça
C'est
va
quand même
bien, hein?
cool, une étude de déprescription de lévothyroxine. Moi, je salue l'initiative de ces chercheurs-là.
Oh ouais, absolument,
Moi,
absolument.
j'aimerais juste dire que Marie-Ève, en ce moment, là, elle ne sait pas qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse.
Là, je sais.
C'est plus clair.
Oh, mais
Elle
regarde, on...
l'augmente-tu selon la TSH ou elle essaye de l'arrêter? C'est plus clair.
Amé, on le dit en préambule, hein? On reçoit d'excellentes questions, on fournit pas toujours de très bonnes réponses. Donc voilà, on s'est essayé.
Fait qu'écoute, Marie-Ève, là, on te mettra sur la page web de l'épisode les références, autant pour peut-être augmenter que les références pour peut-être enlever la lévothyroxine. Tu nous donneras des nouvelles, on est désolé. Prochaine question? Amé?
Je suis vraiment en train de me dire, pauvre Marie. Clairement, on ne l'a pas aidée. Oui, alors, question de Olivier. Encore une fois, je ne sais pas d'où vient Olivier, mais merci Olivier pour ta question. Donc, la question c'était, il semble acquis de doser créatinine et électrolytes lors de l'initiation ou ajustement d'un IECA ou d'un ARA. À date, dans ma pratique, le résultat n'a jamais mené vraiment à une intervention. Est-ce que c'est vraiment utile? Internet semble dire que c'est peu utile. J'aimerais votre opinion.
C'est quand même une très bonne question, encore une fois.
Tout à fait.
Ça va être dur de donner une très bonne réponse,
Encore
encore
une
une
fois.
fois.
Oui, donc je me suis basée un peu là, pour répondre à la question, entre autres, sur un papier qui est sorti, ben, une publication là, du regroupement des pharmaciens experts en néphro de l'Association des pharmaciens en établissement de santé du Québec. Qui a été publié en septembre 2025. Globalement, on n'a pas d'essais randomisés contrôlés là, qui ont comparé directement les stratégies de surveillance de la fonction rénale et des électrolytes après initiation ou ajustement d'un traitement. Là. Fait qu'on n'a pas de comparaison directe entre est-ce qu'on le fait dans une semaine versus 2 semaines versus 4 semaines ou si on le fait pas du tout. Les recommandations sont plus basées sur des opinions d'experts, sur la base des mécanismes là, pharmacodynamiques au niveau rénal, puis sur les données indirectes qu'on a d'essais randomisés. Donc, ce qu'on sait, pour faire un petit rappel, on le sait que les IECA, les ARA entraînent un blocage du système rénine-angiotensine-aldostérone. Ça cause une diminution de la pression dans le glomérule et donc une diminution du débit de filtration glomérulaire et une hausse de la créatinine. Donc, c'est attendu. Après l'ajustement ou l'introduction de ces médicaments-là, qu'il y ait une diminution du débit de filtration glomérulaire. Puis généralement, c'est réversible et ça se stabilise dans les semaines qui suivent, là, entre 2 et 4 semaines ensuite, après l'ajustement. En termes de chiffres, il y a des essais là, dans les analyses de OnTarget et de Transcend, par exemple, qui montrent qu'il y a un déclin de 15% et plus du DFG au bout de 2 semaines chez environ 16% des patients après le début du traitement et que cette variation-là de DFG persisterait au bout de 8 semaines chez uniquement 7% des patients. Dans une certaine proportion là, de ces patients-là, ça rentre dans l'ordre.
C'est sûr, ces chiffres-là sont à prendre avec beaucoup de nuances, là,
Un
parce
gros grain de
que,
sel.
ben, tu sais, de un, tu l'as dit, c'est attendu. Puis même, il y a une certaine corrélation qui existe, justement, bon, provenant de plusieurs études randomisées contrôlées, dont les études que tu mentionnes. On promet peut-être en référence, il y a quelqu'un qui a fait pas une revue systématique, là, mais une espèce d'analyse en prenant les gros essais randomisés contrôlés sur le sujet. Puis ils ont réussi à démontrer une corrélation inverse entre la diminution initiale du débit de filtration glomérulaire ou la hausse initiale de créatinine, puis l'intensité ou l'ampleur de la protection rénale à long terme. Fait que tu sais, non seulement c'est attendu, mais c'est jusqu'à un certain point, là, souhaité
C'est ça,
pratiquement de voir une hausse de la créatinine initialement, là.
C'est ça. Donc, c'est que la baisse du débit serait comme corrélée à une amélioration de la protection rénale.
Exact. Ça te montrerait dans le fond que le médicament ben, fait l'effet qu'on attend de lui. Là, pour les chiffres, ce qui est dur, c'est que ben, ça dépend des patients qu'on inclut dans les études. Donc, on le sait, il y a des facteurs de risque quand même là, d'associer une augmentation plus importante de la créatinine.
Oui, fait que. Typiquement, les patients qui sont plus âgés, les patients surtout qui ont des maladies rénales chroniques, qui sont connus pour de l'albuminurie, des patients qui ont un diabète qui évolue quand même depuis un certain moment, ou d'autres qui ont des maladies macrovasculaires, l'exemple des sténoses des artères rénales. On sait que ça, c'est des facteurs de risque significatifs pour des détériorations plus marquées de la créatinine là, après changement ou introduction du médicament.
T'sais, typiquement, dans les essais randomisés contrôlés de néphroprotection, ben, comme dans n'importe quelle étude, là, il y a des critères d'inclusion, d'exclusion, il y a un filtre donc qui se met à l'entrée, puis on se ramasse typiquement avec des gens un petit peu plus solides que certains patients qu'on peut avoir dans notre pratique. Fait que, t'sais, c'est ça, ces chiffres-là, c'est intéressant. Je pense que ça nous montre que la grande majorité des patients n'auront pas une hausse de leur créatinine qui est problématique. Mais combien? Je pense que c'est difficile à généraliser, là.
Oui, tout à fait. Puis, tu sais, quand tu parles de justement d'augmentation qui est problématique, là, c'est que jusqu'à un 30% d'augmentation de la créatinine, théoriquement, on ne devrait pas rien faire. Donc, il n'y aurait
Exact.
pas d'indication là, de cesser le médicament ou d'ajuster si on a une augmentation qui reste dans le 30 % de la valeur de base.
Puis tu sais, le fameux 30 %, je ne suis pas sûr là, où comment il a été établi exactement historiquement. L'idée, c'est qu'il y a une hausse à partir de laquelle on craint que ce qu'on est en train de voir, c'est plus juste l'effet attendu du médicament, justement, mais la conséquence de quelque chose d'un peu sous-jacent, genre quelqu'un que, bon, le classique, là, c'est une sténose artérielle rénale, quelqu'un qui serait déshydraté, quelqu'un qui scie ça, puis là, c'est parce qu'on commence à craindre des complications, des séquelles. Fait que, tu sais, la bonne façon d'étudier si c'est pertinent de faire des contrôles de créate électrolyte de façon systématique chez des gens comme ça serait une étude idéalement randomisée contrôlée où on n'irait pas voir la fréquence puis l'intensité de l'augmentation de la créate, mais où on irait voir est-ce que dans un groupe où on dépiste de façon systématique ces hausses-là, ces atteintes-là, est-ce qu'on change le devenir des patients? Parce que ce serait ça qui nous permettrait vraiment d'établir la valeur de faire ce dépistage-là. Puis, ben, à notre connaissance, là, cette science-là n'a jamais été faite. Je serais bien étonné qu'elle soit faite prochainement. Fait qu'on se fie beaucoup sur l'idée que, ben, y a des proportions de gens. C'est pas minime, là, les chiffres que tu as mentionnés, on s'entend, là. Ça arrive donc chez un certain nombre de gens. Là. Dans la question, la personne nous dit que ça y est jamais arrivé en pratique de devoir faire quelque chose. Donc, on sous-entend qu'elle a jamais pogné une augmentation de plus de 30 %. Moi, ça m'est déjà arrivé, vous autres.
Ben
Ça
oui.
fait que ça arrive. C'est dur de donner un chiffre, là, comme on a dit, mais ça arrive. Est-ce que ce chiffre-là est suffisant? Est-ce que, tu sais, puis là, il y a plein de questions là, à se poser, puis c'est une analyse qu'on peut pas faire nous-mêmes, là. Fait que, tu sais, il y a le coût, le temps, l'utilisation de ressources, le risque de séquelles si tu les pognes pas sur des dépistages versus attendre que ces patients-là consultent pour une plainte X, Y, Z. Bref, c'est beaucoup, beaucoup de morceaux qu'il faudrait adresser dans une étude de qualité qui n'existe pas. Encore une fois, une très mauvaise réponse.
Ah ben, j'allais aussi dire, ben en fait, j'allais parler plus d'hyperkaliémie.
Ah, peut-être c'est plus facile là-dessus.
Ben, je veux dire, c'est que, tu sais, quand on parlait est-ce qu'il y a des choses à faire, tu sais, moi, dans ma pratique, c'est plus ça que j'ai vu que des 30 % là, très honnêtement. Mais donc, on sait que le blocage de l'aldostérone, ça entraîne une diminution de l'excrétion du potassium, donc il y a un certain risque d'hyperkaliémie avec les ARA, les IECA. Puis encore là, t'sais, je trouvais important de mentionner plus selon les facteurs de risque, donc les patients, encore une fois, qui ont de l'insuffisance rénale chronique, du diabète, de l'insuffisance cardiaque ou chez ceux qui prennent d'autres médicaments qui pourraient agir sur le système de renine-angiotensine-aldostérone. Donc, on a aussi des données là, qui montrent que chez des patients atteints d'une maladie rénale chronique de stade 3, on pourrait augmenter la kaliémie en moyenne de 0,25 à 0,3 millimoles par litre, avec une augmentation du risque absolu d'hyperkaliémie d'environ 10 %. Donc, une kaliémie supérieure à 5,5. Puis, chez les patients ayant une maladie rénale chronique de stade 4 ou 5, le risque de base d'hyperkaliémie est plus élevé à cause de la diminution du débit de filtration. Puis, dans cette population-là, le risque d'hyperkaliémie serait plus de 10 à 15 %.
Ben ça, je pense que c'est ça. Un, ça fait du sens. Deux, clairement, ça correspond à ce qu'on voit en pratique, là. Les gens avec une fonction rénale normale ou pas pire sont très certainement plus difficiles à amener en hyperkaliémie iatrogénique, là.
Fait que c'est un peu là que je m'en allais, en fait. Je m'en allais dire, tu sais, après ça, est-ce qu'on devrait nécessairement le doser ou pas? Je pense que c'est surtout à retenir que chez les patients avec des facteurs de risque plus importants d'avoir soit une détérioration de la fonction rénale significative ou une hyperkaliémie, ben, je pense qu'il faudrait peut-être un petit peu plus systématique ou du moins garder en tête d'être plus prudent. Mais après ça, est-ce que c'est une bonne réponse de le doser à tout le monde? Là? J'ai pas
Mais
cette.
tu sais, là, après ça, c'est parce que je me souviens qu'on avait fait un épisode sur l'onychomycose, où on avait parlé du monitoring hépatique de la terbinafine. Puis c'est un exemple où c'est écrit noir sur blanc, évidemment, même en gras dans les monographies, de faire les fameux là, suivis de monitoring hépatique à cause du risque d'atteinte hépatique. Un risque qui est certainement plus petit en termes de chiffres que les chiffres qu'on vient de voir là, que ce soit pour l'hyperkaliémie ou l'atteinte rénale aiguë. Puis un risque pour lequel, justement, la science semble suggérer que tu vas bien plus pogner les cas basés sur une plainte sur la présentation clinique, un patient qui va consulter finalement parce qu'il se sent pas bien, que sur juste bilanter de façon très systématique le tout. Mais même avec ça, on en venait quand même à la conclusion que c'est écrit noir sur blanc un peu partout, puis ça devient un peu litigieux de ne pas le faire. Fait que ici, je dirais, au-delà de la science disponible, là, juste pour revenir à la question très pratico-pratique dans la réalité, ben c'est tellement écrit partout qu'on dirait que je suis pas sûr que je me sentirais super à l'aise de gérer un patient pour qui j'ai décidé de ne pas faire un monitoring de ce genre-là, puis à qui il arriverait quelque chose. Je dirais que j'aurais de la difficulté à me défendre vu l'absence de science bien, bien aidante, là.
Surtout que l'hypercalémie, en plus, ben c'est rare que ça cause énormément de problèmes, là, mais il peut y avoir des.
Mais mettons que les problèmes sont moins intéressants quand ils arrivent.
C'est
Ben,
ça,
c'est
tu sais.
ça, c'est ça. Je veux dire, la majorité des hypercalémies seront asymptomatiques, là, mais rendu à certains seuils,
Jusqu'à ce
il y a
que tu en
des
meurs.
dangers. Ben, c'est ça, il y a des dangers quand même associés, là. C'est rare, mais voilà.
Fait qu'on dirait que, bon, pour la partie scientifique, je suis pas sûr qu'on ait de super bonnes réponses, mais pour la partie juste
Médico-légal.
moi, médico-légale, barre oblique, pratico-pratique, ben, pas sûr qu'on ait vraiment joué.
Désolé, Olivier, tu dois continuer à suivre la créate et le potassium.
Prochaine question. Question de Maxime de Brossard. Hein? Très fort, Maxime de Brossard. Alors, bonjour, je me questionnais sur la place de la cariprazine dans l'arsenal thérapeutique des antipsychotiques. Bon, son prix demeure élevé, même lorsque la cariprazine est couverte en médicaments d'exception. J'ai trouvé une méta-analyse de 2025 de plusieurs essais randomisés contrôlés qui présentent des données d'efficacité selon 10 domaines de symptômes plutôt que par diagnostic. Que pensez-vous de cette approche? Bref, qu'est-ce que c'est ça? Puis qu'est-ce qu'on devrait faire avec la cariprazine? Puis effectivement, je pense pas qu'on a déjà traité de la cariprazine au Pharmascope, sous toute réserve.
Non, je pense pas non plus.
Ça me dit rien. Fait que la cariprazine, c'est quoi? Ben, c'est un antipsychotique commercialisé depuis 2022 au Canada sous le nom commercial du Vrylar. Un V, un Y, sept lettres. Hein? Vous savez où je m'en vais avec ça? Vous voyez que 2022, tu sais, ça commençait. La barre n'était pas encore super haute. Là, on pouvait y aller avec des mots qui n'avaient pas encore 3Z, 2Y sur cette lettre.
Ben, c'est ça, il manque un Y dans le nom du médicament, là.
Ouais, il aurait dû mettre 2Y de suite,
Ben,
probablement.
clairement.
Comme le 2X de Imvexxy.
Voilà.
Ben, eux, en fait, c'est 2XY. C'est très fort. Mais bref, donc le Vrylar, un antipsychotique qui est indiqué officiellement dans le traitement de la schizophrénie et du trouble bipolaire de type 1, autant pour la manie que la dépression bipolaire. C'est quoi la cariprazine? C'est un agoniste partiel des deux. Fait que là, pour ceux qui tripent mécanisme d'action, hein, ben c'est le même concept que l'aripiprazole ou le brexpiprazole. Ces antipsychotiques atypiques là, relativement récents aussi. L'aripiprazole, là, c'était supposé être révolutionnaire de par son mécanisme agoniste partiel des deux au lieu d'antagoniste des deux. Bon, dans la vraie vie, là, on s'est vite rendu compte que c'était pas vraiment révolutionnaire. Dans le cas de la cariprazine, on essaye aussi de mettre de l'avant l'effet agoniste partiel D3. Puis ça, là, apparemment, ce serait vraiment une bonne nouvelle peut-être pour l'aspect cognitif ou les symptômes plus de type liés à l'humeur. Sinon, ben, le côté agoniste partiel, là, à la base, là, même dans le temps de la cariprazole, on mettait aussi de l'avant le profil d'inocuité qui pouvait être intéressant, fait que peut-être moins d'effets extrapyramidaux, peut-être moins d'effets métaboliques aussi, puis tout ça. Fait que, rien de super novateur là en termes de c'est quoi la cariprazine. En termes d'efficacité, ben on a un paquet d'études randomisées contrôlées, majoritairement contre placebo évidemment, hein, psychiatrie on s'en sort pas. On continue d'approuver nos nouveaux médicaments principalement sur des études randomisées contrôlées contre placebo, ce qui, on en a déjà parlé là dans des épisodes antérieurs, me laisse déçu. Je vais vous le dire, me laisse déçu parce que il me semble que quand tu arrives avec tes nouveaux médicaments, tes nouveaux antidépresseurs, tes nouveaux antipsychotiques, puis tu veux nous convaincre de dépenser 100, 150 pièces par mois, il me semble que tu devrais essayer de me montrer qu'il y a un avantage clinique par rapport aux autres traitements qu'on a déjà, puis qui coûtent souvent 10, 15, 20 pièces par mois, mais bon, c'est comme ça. Fait que tu sais, des données assez standards, puis quand on regarde les résultats, ben on a l'air de se tenir aussi dans des résultats assez standards, là. Fait que je veux pas qu'on détaille ici là, chaque indication, chaque étude, mais mettons là, en dépression bipolaire, ben on a 3 essais randomisés contrôlés d'à peu près 500 participants, des études contre placebo d'une durée de 6 semaines, où on a démontré des taux de rémission autour de 30-35% avec la cariprazine, contre des taux de rémission autour de 15 à 20% avec un placebo. Ce qui ressemble pas mal là, à ce qu'on connaît comme science avec ce genre de médicaments-là.
Ouais, rien de
Peut-être,
surprenant ici.
exact. Peut-être une étude qui vaut la peine quand même d'être mentionnée, puis Je pense qu'elle est souvent effectivement mise de l'avant aussi pour essayer de mettre en valeur des avantages potentiels de la cariprazine par rapport à ses compétiteurs. C'est une étude randomisée contrôlée contre risperidone. Fait quand même ici, ça doit le souligner, en schizophrénie. Une étude qui avait été publiée dans le Lancet en 2017. Quand même une grosse étude là, pour le domaine. Là. Fait qu'une étude à double aveugle, randomisée contrôlée chez 461 patients atteints de schizophrénie. Puis une schizophrénie qui se définissait comme étant avec prédominance de symptômes négatifs pour justement essayer de mettre de l'avant là, certains effets liés peut-être à l'agonisme partiel sur le récepteur D3, sur donc certains symptômes plus liés à l'humeur, la cognition et compagnie. On a étudié ces médicaments-là chez ces patients-là pendant 26 semaines, ce qui est quand même très long aussi pour ce genre d'études-là. Fait que chapeau quand même là-dessus. Puis au final, ben on a observé quoi? Pas grand-chose de différent. Fait que l'étude, la compagnie a fait l'étude, évidemment, essaie de mettre de l'avant l'avantage statistiquement significatif sur un score de symptômes négatifs, une échelle de 42 points. Effectivement, ils ont une valeur P statistiquement significative, mais une différence absolue d'un point 46 points ou 1,46 points sur la dite échelle de 42 points. Puis j'ai regardé là, rapidement les différences dites minimalement cliniquement significatives, puis évidemment, on n'était pas là pantoute.
Puis est-ce qu'il rapportait des taux de réponse, des taux de répondeur?
Ouais, ben ils ont fait une analyse de réponse là, sur une affaire, mais c'était vraiment sur bon, une échelle spécifique, encore une fois, aux symptômes négatifs. Puis ce qu'on regardait, c'est la quantité de gens à 26 semaines qui avaient une amélioration d'au moins 20 % par rapport à leur score de base. Puis bon, officiellement, la cariprazine a gagné avec 69 % des patients qui auraient atteint cette diminution-là contre 58 % sous risperidone, qu'une différence de 11 % qui donnerait un NT à 9 puis qui serait statistiquement significatif. Fait que c'est pas que c'est mauvais, là. Mais à quel point ça se démarque, puis ça, c'est la grosse étude comparative contre un traitement, la risperidone. Je suis pas sûr que la risperidone, c'était le comparateur ayant le plus haut potentiel de succès.
Oui.
Si
Mais
on
même à
serait.
ça, il est à 58 % le taux de réponse dans la risperidone. Je suis même surpris que ça soit si haut.
Oui, en effet. Puis tu sais, là, ben, on s'entend, leur taux de réponse, c'est une diminution de 20 %. Hein. C'est pas une amélioration de 50 %, là.
Non,
T'sais,
non,
souvent en
non, c'est
psychiatrie, on
clair.
va utiliser une amélioration de 50 % sur un score XYZ. Là, c'est une amélioration de 20 %,
On s'entend.
là. Puis tu sais, là, c'est pas le but là, de répondre à la question en étant aussi large, mais la risperidone, on se rappelle que c'est un antipsychotique, oui, atypique, mais qui est disons, plus proche de la sphère des antipsychotiques typiques. Donc, il y aura un potentiel moins fort peut-être sur le traitement ou le soulagement des symptômes négatifs. Fait que bref, on dirait que je reste sceptique ou prudent face à ce résultat, certainement.
Clairement.
Puis même en termes de toxicité, peu de choses qui sont sorties. C'est assez similaire en termes d'effets indésirables. Un petit peu moins de parkinsonisme avec la cariprazine, ce qui fit un peu avec le mécanisme d'action. Mais tu sais, quand je vous dis un petit peu le moins, là, à 26 semaines, on parle de 7 % chez les patients sous cariprazine, contre 10 % chez les patients sur risperidone, puis un petit peu plus d'acathisie. Fait que ça, on voit ça effectivement assez fréquemment avec nos antipsychotiques récents. Mais encore là, pas une grosse différence, le 8 % pour les patients sous cariprazine contre 5 % pour les patients sur risperidone. À noter aussi d'un point de vue métabolique, le poids est resté assez stable dans les deux groupes. Là, c'est sûr, on parle pas de patients nouvellement diagnostiqués de schizophrénie, donc des patients qui pouvaient recevoir avant l'étude des traitements psy pis ça, là. Mais bref, il n'y a pas eu d'avantage significatif de la cariprazine de ce côté-là non plus. Fait que ça a l'air d'être relativement similaire à d'autres produits qu'on a déjà sur le marché. Sinon, peut-être mentionner qu'il y a des données, même s'il n'y a pas une indication officielle au Canada en traitement adjuvant du trouble dépressif unipolaire. Concept qu'on est habitué d'utiliser maintenant. Je pense que la quétiapine, la aripiprazole là, sont prescrits assez couramment dans ce genre de problème-là. Fait que c'est un peu le même concept. Là. Il y a des études randomisées contrôlées qui ont été faites, puis qui ont démontré effectivement une valeur ajoutée de la cariprazine. Mais encore une fois, rien qui se démarque là. Autrement, ben, je sais pas là, ce qui mérite d'être dit de plus sur la cariprazine. Ça a une très, très, très longue demi-vie, surtout le métabolite actif. Là, on pense que le gros de l'effet serait dû à un des métabolites actifs qui aurait une demi-vie de 1 à 3 semaines. Fait que ça aussi, on est comme dans la même sphère. Je sais pas si c'est une coïncidence que la aripiprazole, le brexpiprazole. Fait que, qui peut être un avantage ou un désavantage. C'est-à-dire que pour les patients qui veulent le cesser ou pour les patients qui peuvent oublier des doses, ben, c'est probablement pas trop difficile. À l'inverse, lors de l'initiation, pour les ajustements notamment, ça peut être un petit peu plus compliqué parce qu'avant de voir l'espèce de plein effet ou l'atteinte de l'équilibre, ben, clairement, ça peut être long. En termes de tolérance, on en a parlé déjà là, par rapport à la risperidone, mais de façon générale, quand on regarde les études contrôlées contre placebo, on ne peut pas dire qu'on a des grosses surprises. Là, fait que l'acathisie, les symptômes extrapyramidaux, on en a parlé. Sinon, ben un peu de somnolence, un peu de constipation, des étourdissements, de la tachycardie, des nausées, toutes des affaires qui arrivent là, à moins de 10% des gens. Genre d'affaires qu'on s'attend à pouvoir voir avec nos antipsychotiques atypiques de façon générale. Fait que je peux pas dire qu'il y avait des trucs qui se démarquent beaucoup de ce côté-là. Il y a des préoccupations aussi là, habituelles, là, fait que certaines questions qui restent à déterminer par rapport au QT, il y a des précautions en insuffisance hépatique sévère, en insuffisance rénale sévère. C'est malheureusement un médicament qui est métabolisé par le fameux cytochrome 3-4, fait qu'il y a un potentiel d'interaction assez important. Puis comme Maxime l'a mentionné dans la question, ben un prix qui est plus élevé. Je veux dire, on n'a pas de générique, là, fait qu'on parle d'environ 150 $ par mois. Les autres antipsychotiques atypiques ont presque tous des génériques maintenant, des médicaments qui se détaillent selon la dose. Là, ça se promène un peu, mais quelque part entre 10 et 40 $ par mois, fait que certainement plus cher. Est-ce qu'il y a des bonnes raisons de sauter sur ce coût plus élevé-là? Comme je dis, là, je reste prudent. Puis pour ce qui est de l'espèce de d'analyse là qui est mentionné par Maxime dans la question, j'ai jeté un coup d'œil. Effectivement, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de pas utiliser les données en fonction du diagnostic des patients dans les études, mais vraiment juste se concentrer sur l'effet de la cariprazine dans toutes ces études-là sur différents domaines de symptômes. Fait que genre les symptômes dépressifs, par exemple. C'est un peu bizarre. En même temps, rapidement, tu te rends compte que ce papier-là, il est fait par la compagnie, là, littéralement. Les auteurs sont des employés de la compagnie. Quand tu regardes les résultats, ça semble vouloir mettre en valeur là, certaines affaires, là, les résultats notamment sur certains symptômes négatifs qu'on a mentionnés tantôt. Pas sûr qu'il y ait une grosse valeur ajoutée par rapport à aller voir les études principales, personnellement. Je suis pas sûr, là, Maxime, que c'est une publication qui devrait ajouter beaucoup de poids dans ton processus décisionnel par rapport à la cariprazine. Fait que, tu sais, je répète, hein, on n'est pas en train de dire que c'est un mauvais médicament, là, ou quoi que ce soit. C'est juste que je suis pas certain que qu'on devrait se lancer, beaucoup sur ce médicament-là, notamment à cause du prix, effectivement, parce qu'il semble pas se démarquer de façon très importante sur grand-chose.
Puis ça reste quand même, de ce que je comprends, c'est disponible depuis 2022, puis à date, ça n'a pas percé le marché de façon transcendante.
Ben, en tout cas, pas chez nous. À noter que c'est remboursé quand même pour le traitement de la schizophrénie par la RAMQ. Fait que c'est un médicament d'exception, mais le seul critère, t'as pas besoin d'avoir essayé d'autres affaires, puis tout ça, c'est le traitement de la schizophrénie.
Intéressant.
Que voilà pour la cariprazine. Prochaine question, Oli?
Oui, ben, on a reçu une question, ben, plusieurs questions de David Simard du GMF du Fjord, basé au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
On dirait que ça sonnait drôle, comment tu l'as dit, juste pour le bénéfice de David. C'était plusieurs questions, mais dans un même courriel. Là. Faut pas comprendre ici qui nous harcèle là, de questions à toutes les semaines.
Ça fait 3 ans que David nous envoie un courriel par semaine sur le magnésium. Non, donc David nous envoyait un long courriel rempli en fait d'excellentes questions sur le magnésium. Puis manifestement, aujourd'hui, on ne pourra pas répondre à toutes ces questions-là. David, on cogite sur un éventuel épisode complet sur le magnésium, mais bon, je sais pas
Juste quand
pourquoi.
même là, parce que c'est pas la première fois qu'on parle de magnésium, c'est pas la première fois qu'on reçoit des questions sur le magnésium. On va le faire l'épisode là à un moment donné, mais tu sais les épisodes comme ça qui tardent là, un peu comme l'hypothyroïdie, il y a des raisons. Puis la raison ben simple, c'est parce qu'on sait très bien quelle boîte on va ouvrir, puis à quel point ça va être rempli de beaucoup de n'importe quoi. Fait que ayez des attentes basses, là. Le jour où vous allez voir l'épisode apparaître, là, ça sera malheureusement pas le temps de crier victoire, vous dire enfin, on va savoir, on va apprendre, découvrir les réponses sur le magnésium, parce que vous allez être bien déçus.
Oui. J'aime à quel point tu mets les attentes au plus bas possible. C'est prudent, c'est prudent.
Exact, exact.
Bon, on s'est quand même dit qu'on allait répondre au moins à une des questions de David qui concernait en fait les liens entre les inhibiteurs du SGLT2 et l'hypomagnésémie. Donc, c'est très Question très précise, mais quand même intéressante. Puis la littérature, quand même intéressante. Donc, première chose, j'ai trouvé une revue systématique publiée par Zhang et collaborateurs en 2022 dans le journal Kidney 360. Les auteurs incluaient dans leur revue systématique des études randomisées contrôlées d'une durée d'au moins 24 semaines qui comparaient les inhibiteurs du SGLT2 contre placebo chez des patients avec un diabète de type 2. Les études devaient rapporter des mesures d'électrolytes avant l'étude et avec l'intervention. Puis les auteurs étudiaient l'effet des inhibiteurs du SGLT2 sur les niveaux sériques de magnésium, phosphate, calcium, sodium et potassium. Donc, quand même intéressant. Ils ont inclus 25 études randomisées contrôlées pour un total de presque 30 000 participants. Puis ce qu'on remarquait, en moyenne, les inhibiteurs du SGLT2 augmentent de façon statistiquement significative de 0,07 millimoles par litre la magnésémie contre placebo. Donc là, deux choses. De un, clairement, ça ne va pas du bord que je pensais.
Ben non, moi non plus, on dirait.
Ben, je me disais, ben, tu sais, les inhibiteurs du SGLT2 ont un effet diurétique, ça doit éliminer du magnésium. Mais il paraît que ça augmenterait la magnésémie par l'effet inhibiteur de certains canaux au niveau rénal qui diminuerait en fait l'élimination du magnésium. Donc, c'est le premier point, c'est un peu surprenant. Après, on peut se demander est-ce que cette différence de 0,07 millimoles par litre, c'est une différence qui est cliniquement significative? On s'entend que c'est pas une grosse augmentation de magnésium, là, mais quand on pense qu'il y a même des études de randomisés contrôlés de suppléments de magnésium qui ont PROS, qui n'ont pas démontré de hausse de magnésium sérique, ben, c'est pas non plus complètement inintéressant, là, cette différence de 0,07.
En effet.
Ça, c'est la première étude. À part de ça, j'ai trouvé une deuxième étude qui méritait d'être mentionnée. Je pense que c'est une analyse post-hoc de 10 études randomisées contrôlées de dapagliflozine contre placebo chez un peu plus de 4 000 patients, encore une fois avec du diabète de type 2. On avait un sous-groupe d'environ 800 patients à la base qui avaient de l'hypomagnésémie, qui était défini dans cette analyse-là comme un magnésium sérique de moins de 0,74 millimoles par litre. Par contre, c'était pas des hypomagnésémies très sévères, là. Le magnésium sérique moyen dans le groupe avec déficit était de 0,66 millimoles par litre.
Ça aligne.
Ben, c'est ça. Par contre, l'issue primaire de ce sous-groupe-là, c'était une issue dichotomique de résolution de l'hypomagnésémie. Donc, on comparait le nombre de patients dans chaque groupe qui avaient un magnésium normal à la fin de l'étude et qui, à la base, avaient un magnésium bas, déficitaire. Puisqu'on observe dans le groupe dapagliflozine, 77% de patients avec résolution de l'hypomagnésémie contre 30% dans le groupe placebo, ce qui était statistiquement significatif pour un NNT de 2.
Sapristi!
Puis encore une fois, hausse moyenne de 0,08 millimoles par litre avec les inhibiteurs du SGLT2, ce qui revient pas mal au, ce qui revient en fait au même chiffre que qu'on mentionnait tantôt.
Eh bien, on en apprend tous les jours.
Ben, on va se coucher moins niaiseux à soir.
Fait que les inhibiteurs à GLT2, s'ils font quelque chose sur le magnésium, ça semble être plutôt l'améliorer ou en tout cas l'augmenter.
Ouais.
Eh bien.
Surprise.
Ben merci David de la question. Tu vois, ça nous a permis ici de trouver une réponse. J'aime ça. Pratique les inhibiteurs à GLT2. Ça corrige les hyperkaliémies, ça corrige les hypomagnésémies.
Ben, ça fait tout.
Mais cliniquement, là, ça
Oh,
change-tu?
ouais,
Ça change-tu la vie de
non,
quelqu'un?
non, amé, amé, amé.
Cette boîte-là, c'est
Là,
beau, j'en
on
veux
n'ouvre
qu'on
pas ça.
OK,
l'ouvre.
c'est bon, on la
On n'ouvre
referme.
pas ça.
Une autre fois. Bon, ben voilà, ça fait le tour des questions et réponses d'aujourd'hui. Pour les réponses moins solides, ben on est désolé. On essaiera de faire mieux une prochaine fois. Encore une fois, merci pour vos questions, sans blague. On vous le dit à la fin de chaque épisode, mais gênez-vous surtout pas. Si vous avez des questions, des plaintes, des commentaires, ben écrivez à Oli. Ça nous fera plaisir d'essayer, du moins, d'y trouver des réponses. Si vous nous avez envoyé une question il y a longtemps puis qu'on n'y a pas donné de réponse encore, peut-être la renvoyer à Oli. Vous le savez, on n'est pas bien bon sur le suivi de ces affaires-là. Fait que prenez-le pas au personnel. C'est comme ça. Fait que faites juste nous la renvoyer puis on va essayer de faire mieux. Sinon, ben, on se parle bientôt.
Ciao,
ciao. Salut.
Ben là.
L'information contenue dans cette balado-diffusion est à titre indicatif seulement et ne remplace en rien l'avis ou le jugement d'un professionnel.